Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Musique.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'était hier soir, et c'était un triomphe, la première de Médée au Palais Garnier. 300 ans après sa création, la tragédie lyrique de Marc-Antoine Charpentier, donnée à l'Opéra de Paris avec dans le rôle-titre Léa Désandré. À 30 ans, la mezzo s'est imposée en quelques années comme l'une des grandes voix baroque française, mais une voix libre. Sur son dernier album, Idylle, elle chante entre autres Barbara ou Françoise Hardy, accompagnée par le luth de Thomas Dunford. Et puis, ils préparent tous les deux le mois prochain un spectacle autour de Julie Andrews à l'Opéra Comique. Après quoi, quelques heures de sommeil, supercalifragilistéa Désandré est notre invitée. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'être là en ce lendemain de première. Alors, heureuse?
Oui, c'était merveilleux, comme dans un rêve. On a passé une soirée pleine d'émotions. C'est toujours un aboutissement assez spécial quand on a travaillé pendant des semaines comme ça, en huis clos. Et encore plus quand c'est un rôle comme celui de Médée, qui est extrêmement inspirant et dans lequel je me sens totalement habitée. C'était comme une forme de transe un peu, en fait, de la parcourir. Et après, on a un peu du mal à dormir. Donc, j'ai fait une jolie petite sieste et je suis heureuse.
C'est facile de trouver le sommeil après un soir de première?
Non, il y a un pic d'adrénaline. Et c'est vrai qu'on se prépare toute la journée à ce moment-là, à cette soirée. Plus encore que cette journée, et même en amont. On y pense, j'y pense depuis des semaines, des mois. Et une fois arrivé chez soi, faut que tout ça redescende, toutes ces émotions. Et encore aujourd'hui, je me sens comme sur un petit nuage.
C'est vrai que vous faites des cadeaux à vos partenaires les soirs de première?
Ouais, c'est une tradition à l'opéra. Tous, le chœur, les solistes, la technique, on se fait des petits présents, alors qu'ils ont des significations plus ou moins particulières. Quand on a vécu des choses ensemble sur les répétitions, on cherche à faire des petits clins d'œil. Donc ça nous prend généralement quelques jours avant la première. On est tous à s'affairer. Alors qu'est-ce qui ferait plaisir à tel collègue et tel collègue? Et puis justement, on rentre à la maison après la première, on lit tous nos petits mots, c'est plein de beaux souvenirs.
Médée de Charpentier à l'Opéra de Paris à Garnier pour la première fois jusqu'au 11 mai avec dans la fosse les arts florissants et William Christie, une mise en scène de David McVicar. Il reste très très peu de place, ce sera le 1er juin sur France Musique. Et voici un air fameux à l'acte 3 enregistré par l'Opéra de Paris. C'est le moment où on peut dire que vous commencez à partir en vrille. live, on entend les pas, on entend les tout, enregistré par l'Opéra de Paris pendant la Générale. À l'acte 3 de Médée, Charpentier, Les Arts Florissants, dirigé par William Christie, Léa Desandré, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'opéra pour vous ?
C'est le moment où Jason, mon époux, m'annonce qu'il me quitte, en fait, qu'il va partir, qu'on se sépare. Et c'est un peu le pivot de l'œuvre, c'est le moment où Médée est véritablement abandonné et va laisser la magicienne prendre le dessus. Avec David McVicar, le metteur en scène, on a aimé à se dire que c'est comme un loup-garou un soir de pleine lune qui lutte au moment de la transformation. Donc les deux premiers actes et les premières scènes du troisième, c'est vraiment, elle contient tout cet animal à l'intérieur. Et passer cette ère-là, ça part en live. Elle laisse sortir l'animal et là, le troisième acte, c'est l'invocation des furies, les enfers. Et c'est à partir de là qu'elle va switcher et songer à commettre des crimes et les mettre en place.
Médée, Marc-Antoine Charpentier, Léa Desandré, vous avez dit magicienne plus que sorcière pour vous ?
Oui, après Médée, on en fait un peu qui on veut quelque part, parce qu'il y a tellement de récits différents. Mais oui, pour moi, c'est une magicienne, c'est une femme qui vient de l'île des Amazones, qui a grandi sur cette terre où les femmes sont très proches de la terre, des incantations... Je sais pas, dans le terme sorcière, il y a quelque chose peut-être un peu péjoratif, là où magicienne, il y a un contact aux éléments qui est plus fort. Et c'est une femme que j'aime beaucoup.
C'est pas un monstre pour vous,
non,
cette mère
absolument
infanticide
pas. Non, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je sais pas si on a le temps de bien l'expliquer, mais en fait, c'est très intéressant si vous lisez les textes avant le livret, notamment le texte du grand frère de Pierre Corneille. Il y a une scène à la fin.
Thomas.
Le grand frère de
le
Thomas.
Le grand frère de Pierre.
Ouais, donc du coup, le grand frère de Thomas, du
de
coup,
Thomas
c'est Pierre.
Pierre.
Exactement. Il y a une scène à la fin où Jason dit « Comment vais-je pouvoir te faire souffrir autant que tu m'as fait souffrir en tuant la femme que je veux épouser ? Eh bien, je vais tuer tes enfants. » Et là, Médée arrive et elle lui dit « C'est trop tard, je les ai tués. » Donc, Jason a songé lui-même à tuer ses propres enfants. Et dans ce mythe, il y a plein de subtilités comme ça qui n'en font plus qu'une mère qui commet un infanticide. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et dans le livret du coup, de Thomas Corneille de l'Opéra de Charpentier, on saisit ces subtilités et c'est une femme, on la prend, on a envie de l'enlacer. Il y a beaucoup d'empathie qui se fait avec le personnage et c'est les personnages autour d'elle qui sont monstrueux, qui ne l'écoutent pas, qui ne voient pas ce qu'elle leur dit depuis le début et qui, à la fin, payent de ce manque de lucidité quelque part.
C'est ça qui a rendu et qui rend cette histoire si puissante, qui a tant fasciné, et notamment les compositeurs d'opéra, et bien après Charpentier.
Ouais, oui, c'est une histoire passionnante et c'est aussi très beau de voir les messages que je reçois suite à la pré-générale et hier à la première et à la moins de 28 ans aussi, de femmes qui me disent j'ai l'impression que avec cette Médée c'est nous, mais voilà, vous portez quelque chose de très grand, comme tout le passé des femmes. Il y a quelque chose dans lequel beaucoup de femmes s'identifient. Bon, après, arriver au moment où elle tue ses enfants, on se dit c'est un peu beaucoup, mais quelque part, lorsqu'on ressent de la jalousie, il y a cette chose animale qui nous surpasse. Et je pense qu'on la comprend. On n'irait pas jusque-là, mais c'est des sentiments auxquels on est sensible.
C'est ça aussi pour vous, l'opéra ? C'est au-delà de la belle musique ?
Oui, complètement. C'est ce travail passionnant du rapport à la musique, à l'harmonie, au texte, au jeu. Là, on a la chance aussi, dans ce spectacle, d'avoir du ballet. C'est un art total dans lequel on est vraiment au service d'une histoire. Et je trouve que ce spectacle est à l'image de ce qu'on fait à l'opéra aujourd'hui. C'est extrêmement divertissant, puissant, plein d'émotions. Et on a même des gens qui sont venus nous voir à l'après-générale et qui nous ont dit que c'était mieux que Netflix. Hein.
Il y a de l'humour, il y a du burlesque, cette mise en scène, un pied dans les années folles, un autre dans la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ça a été plutôt bien accueilli hier soir. Il n'y a pas eu de huée parce que c'est de l'opéra baroque français qu'on transpose au XXe siècle. Comment vous l'avez comprise, cette mise en scène de David McVicar ?
Ça s'est fait très naturellement. Le travail avec lui était passionnant parce que c'est un metteur en scène qui s'attarde vraiment sur le jeu d'acteur. Donc, qui, avec nous, était là pendant des semaines à nous prendre par la main, à nous chuchoter à l'oreille des intentions. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec lui, c'est l'envie de faire et refaire pour toujours mieux faire. Je me suis un peu sentie comme en répétition de danse à l'époque où je faisais du ballet.
Pas mal d'années, une dizaine d'années.
Ouais, ça fait longtemps maintenant. Mais dans la danse, il y a ce rapport aux répétitions qui est différent de l'opéra où on refait davantage et il y a pas de l'effort ne nous coûte pas. C'est pour le bien de ce qu'on doit accomplir. Et avec David, c'était comme ça.
C'est vous qui aviez envie de ce rôle ou qui quelqu'un vous y a emmené ? Est-ce que William Christie a joué ?
Oui, c'est William Christie en fait. C'est William Christie qui lui était persuadé dès le début. Et puis après Alexander Neve qui lui aussi
le patron de l'opéra
qui a vu que Médée était quelque part peut-être là et grâce à leur confiance à tous les deux et à leur vision parce que ce sont vraiment des hommes qui prennent des risques, quelque part. C'était Médée, passer de chérubin à Médée, il y a quand même une étape. Et grâce à eux, j'ai pu la faire mienne, mais ils y ont cru avant moi, très clairement. Ouais.
Vous avez douté ? Vous vous êtes dit à 30 ans, bon, vocalement ça va, peut-être dramatiquement, je suis encore jeune.
Je pense que j'ai accepté le challenge parce que je savais que c'était possible, mais c'était clairement une étape. Et dans cette étape, je suis passée par des doutes, de la peur, mais ça nourrit aussi, ça donne envie de se dépasser.
Vous dansez, à Garnier, donc. vous danserez le mois prochain à l'Opéra Comique ?
Aussi, mais tout à fait un autre style.
Chasing Rainbows, un spectacle avec l'ensemble Jupiter, Thomas Dunford. Spectacle autour des chansons de Julie Andrews. Vous avez donné un petit avant-goût, c'était dimanche dernier sur France Musique, dans 42e rue, chez Laurent Vallière. On part à la chasse aux arcs-en-ciel.
Raindrops on roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp-apple-strudel, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Thomas Dunford de Lutte, Léa Desandré. Alors là, on change complètement de registre. C'est Richard Rodgers, c'est My Favorite Thing, c'est la mélodie du bonheur. Comment ce spectacle est-il né autour de Julie Andrews ?
Il est né de cette passion commune pour la comédie musicale qu'on a avec Thomas. Lui, étant franco-américain, il a grandi dans une famille new-yorkaise où ils allaient à Broadway voir des comédies musicales. Et moi, mes parents sont dans le milieu du cinéma. Donc, petite, on regardait beaucoup de comédies musicales. Et voilà, tous les deux, on aime chercher des projets qui nous font du bien, qui nous apportent de la joie, et parce qu'on se dit que si ça nous fait du bien, ça fera du bien aux auditeurs. Et on s'est lancé dans cette aventure un peu folle. C'est un peu comme m'aider, c'est un autre type de challenge. Et en fait, on a réuni l'ensemble Jupiter avec une formation de cordes en boyau, de musique ancienne, liée avec des jazzmen. Et c'était, on l'a créé à Rouen en décembre. Et c'était le plaisir absolu, en fait, de se rendre compte que cette femme, Julie Andrews, a inspiré tellement de générations et nous parle à tous quelque part. On a tous une petite histoire avec elle, avec Mary Poppins, sous la mélodie du bonheur. Et voilà, on en est arrivé à faire ce programme qui est une forme de réunion de tout ce qu'on aime le plus dans son répertoire. Et dans lequel je m'amuse à faire des claquettes, un peu de Charleston. Enfin voilà, tant qu'à faire, autant se faire plaisir jusqu'au bout. Et c'est un programme très joyeux. On a fait un mélange avec des pièces pleines de vie, des pièces un peu plus contrastées, plus douces. Ouais, c'est une belle aventure celle-ci aussi.
Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous émeut dans la voix de Julie Andrews, Léa Desandré?
Bah déjà son timbre, ça ne s'explique pas, et puis la qualité de son texte, son naturel. Elle a quelque chose de très humain et de relativement abordable, alors que c'est une femme qui fait des choses absolument exceptionnelles. Mais elle a ce naturel, une forme un peu de... C'est pas de la nonchalance, parce qu'elle est en même temps très gracieuse et... Je sais pas, c'est un peu l'union de tout ce que je voulais être quand j'étais petite, réunie dans un bout de femme.
On l'écoute. Vous pouvez chanter dessus, ah oui, si vous voulez.
In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake. A
lark,
a spree, it's very clear to see that a
spoon. Full of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down.
Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Le piège à 9h moins le quart, on fait chanter une mezzo qui a fait sa première à l'Opéra de Paris hier soir. Faut changer sa technique vocale pour chanter ce répertoire-là ou pas du tout?
Non, pas du tout. C'est simplement le rapport au micro qui est un peu différent parce que le spectacle, on l'a amplifié. Parce qu'il y a au niveau de la tessiture, il y a des choses qui sont très graves, notamment dans Victor Victoria, qui sont du domaine du cabaret avec un micro. Mais c'est intéressant parce que ça m'a fait découvrir à nouveau une partie de mon instrument que j'abordais pas trop. Et ce contact avec le micro permet d'ajouter encore des couleurs et de découvrir de nouveaux aspects de la voix. Donc c'est hyper chouette.
Vous pourriez remettre ça autour de la comédie musicale?
Oui, j'adorerais.
Rendez-vous le 21 mai en attendant à l'Opéra Comique à Paris. Après Médée, après Chasing Rainbows, le projet s'appelle Songs of Passion. Ça va passer par la Maison de la Radio et de la Musique. Ce sera le 4 juin, toujours avec votre bande. Ça va vous occuper une partie de l'été. De quoi s'agit-il?
C'est un programme de musique anglaise, un mélange de Purcell et Dowland. Donc Dowland qui est plutôt connu pour de la musique un peu triste et dépressive et Purcell qui a des choses un peu plus légères. Et on en a fait un melting pot pour pouvoir peindre à nouveau toutes les émotions de l'âme humaine, en tout cas le maximum. On est sur une formation, on est je crois 8 musiciens. Et c'est un beau voyage au travers de la musique anglaise comme on l'aime.
Beaucoup de dates, et donc le 4 juin à la Maison de la Radio et de la Musique, puis ça fera partie du programme de l'été dans les festivals à Saint-Paul-de-Vence, par exemple, au Château du Telonnet, ou encore du côté de Gstaad, le 4 août, et puis vous allez faire, toujours dans cette belle Maison de la Radio et de la Musique, le concert d'ouverture de saison avec Mico Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, les Nuits d'été de Berlioz. Mmh. C'est une première pour vous?
Non, je l'ai déjà chanté avec John Eliot Gardiner. Et c'est une pièce qui m'inspire beaucoup. Il y a tellement de couleurs et encore une fois, tellement de poésie. J'aime être au service du texte. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc j'ai hâte de reprendre ces nuits d'été. Je sais qu'en plus d'un orchestre à l'autre, on va trouver de nouvelles choses. Donc je me fais une joie de ce moment.
Léa, la dernière fois que vous êtes venue, il y a un an et demi, j'ai fait une petite gaffe, j'ai dit que votre duo avec Thomas Dunford, c'était pas que un duo à la scène, mais aussi à la ville. Alors depuis, un disque est sorti, il s'appelle Idylle. Ça y est, vous assumez, vous m'en voulez pas, vous m'en voulez plus.
Non, je vous en ai jamais voulu.
Comment vous définiriez-vous ce qui vous unit artistiquement, lui et vous ?
On a tous les deux ce goût de l'écoute et du risque. C'est-à-dire que quand on est ensemble, on cherche à être une entité, à respirer ensemble, à ne pas anticiper parce qu'on veut que ça se fasse naturellement, mais à être à l'affût de ce que l'autre va faire pour répondre à ce que l'autre va faire. Et on aime énormément travailler, donc on répète beaucoup, mais en même temps, au moment des concerts, on laisse une grande place à l'improvisation. On ne se dit pas forcément les formes qu'on va faire pour les morceaux qu'on va jouer. Par exemple, sur le programme Idylle, on a beaucoup de pièces de musique ancienne. Justement, il y a du Charpentier, Lambert, Dambruy. Et voilà, on se laisse le voir comment la salle réagit, voir la qualité du silence, de l'écoute. L'un et l'autre, on est dans cette forme à moitié d'improvisation qui permet d'apprendre beaucoup sur aussi de lâcher prise et d'affûter son oreille. Et c'est avec Thomas que je me suis vraiment dit que j'étais un instrument avant d'être une chanteuse, parce qu'avec lui, je me sens comme le prolongement l'un de l'autre. Et on est là pour servir la musique. Et c'est ça qui est merveilleux quand on est juste tous les deux. En plus, on se connaît quand même très bien. Donc on arrive, je pense, à atteindre un niveau de savoir sans parler qui est important.
Idylle parue chez Erato il y a quelques mois. Qu'est-ce qui est le plus dur à chanter, Marc-Antoine Charpentier ou Françoise Hardy ?
Ah, c'est... Les deux, c'est juste du plaisir.
Jacques Dutronc, Françoise Hardy, Léa Desandré, Thomas Dunford, Le temps de l'amour sur le disque Idylle. Vous êtes Médée, la magicienne. Si j'étais un magicien avec une baguette, c'est quoi votre rôle rêvé, celui qui est quelque part dans votre tête, Léa Desandré?
En ce moment, j'ai Mélisande et Cendrillon, qui sont vraiment des rôles qui me font rêver. Et On va voir ce que l'avenir propose.
Ils sont rêvés ou ils sont déjà prévus?
Non, ils sont déjà prévus. Ils sont déjà prévus, oui.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il est 8h53, notre invitée Léa Desandré, qui nous fait le plaisir d'être là ce matin après une courte nuit. Elle était hier soir sur la scène de l'Opéra Garnier pour la première de Médée. C'est jusqu'à début mai, 10 mai je crois, puis ce sera le 1er juin sur France Musique. C'est l'heure d'ouvrir votre diaporama sonore, d'écouter des musiques et de nous dire ce qu'elles vous inspirent. Première musique.
Grand Dieu.
Alceste de Gluck, chanté par Anne-Sophie von Hauteur avec John Elliott et son orchestre. En fait, vous me posiez la question d'un rôle dont je rêve. Clairement, si on regarde un peu plus loin, celui-ci. Je trouve que c'est un rôle incroyable et servi par des musiciens comme eux, ça fait du bien.
C'est un modèle, Anne-Sophie von Hauteur. Ça a été un exemple.
Ouais, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Elle a cette qualité du texte qui est impressionnante. Elle parle français, mais c'est pas la langue, sa langue maternelle. Et on dirait, quand on l'écoute, qu'elle est plus française que vous et moi.
Allez, deuxième musique, deuxième voix. Vous l'avez reconnue ?
Nathalie Dessay, dans La Poupée. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Nathalie. C'est une femme qui m'a fait aimer l'opéra. Je l'ai vue à la télévision à l'âge de 12 ans, dans un reportage. Elle dansait et chantait en même temps. Elle avait un tutu rose. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne pensais pas que l'opéra permettait de faire ça en scène. Et je l'ai suivi partout. Et
vous étiez fan, fan.
Ah, mais j'étais fan, vous n'avez pas
poster
idée.
Dans la chambre,
j'avais fait un t-shirt et tout.
Blog.
Poster, blog. Et c'est très beau parce qu'en ce moment, je chante avec Laurent Naouri, son époux, qui se souvient de moi quand j'étais petite avec un bouquet de fleurs en larmes à venir voir Nathalie. Et là, on a nos loges côte à côte et c'est hyper émouvant.
Elle était là hier soir?
Non, je crois pas. Mais elle est. Ouais, c'est. Quel naturel, et c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté aussi au monde de l'opéra. Donc
vous avez déjà été sur scène ensemble?
Non, jamais.
C'est un regret de ne pas pouvoir faire des vocalises suraiguës, de toucher ce répertoire-là qu'elle fait?
Non, si j'ai un regret, c'est d'avoir jamais chanté avec elle, peut-être. Mais il me suffit de l'écouter et j'ai pas envie de le faire tellement c'est beau.
Troisième musique.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable.
Barbara.
Autre voix, autre. Fan aussi de cette autre voix, de cette autre chanteuse.
Ouais, c'est une femme qui raconte des histoires et qui se laisse traverser par les émotions de cette histoire. En fait, je me rends compte avec tout ce que vous passez que j'aime les personnes qui racontent des histoires. Et là, Barbara, elle a cette, encore une fois, cette qualité de texte. Et même si la voix, il y a des imperfections, c'est au service du texte. Et c'est vrai qu'en écoutant... Quand j'étais adolescente, j'écoutais beaucoup, beaucoup de CD d'opéra, et les moments que je préférais et que je repassais en boucle, c'est quand on entendait la faille de la chanteuse, quand un son collait pas bien ou qu'il était presque un peu craqué. Et chez Barbara, il y a cet aspect-là aussi, c'est très humain, et on entend l'âme humaine dans tout ce qu'elle fait.
Si la photo est bonne, c'est une passion ou c'est la photo pour vous?
Oui, clairement.
Allez, vous avez choisi ça pour se quitter.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.
Alors cette chanson, je vous explique. On était en tournée avec Thomas au mois de novembre aux États-Unis et on s'est retrouvés en Arizona, au milieu du désert, à être logés chez une famille hyper généreuse. Et on a fini la soirée après le concert au bord de la piscine avec le monsieur qui nous recevait, qui a sorti son banjo et on chantait. Il y avait des gens qu'on connaissait pas et tout d'un coup on était à l'autre bout du monde et on était avec une famille. Et c'est le pouvoir de la musique.
Musique de John Denver, vous retrouverez les références sur le site, sur la page de Musique Matin. M'aider jusqu'au 10 mai, le 1er juin, sur France Musique. Le 4 juin, ce programme autour de Delande et Purcell. Et puis, il y aura les nuits d'été en septembre, ici à la Maison de la Radio. Immense merci, Léa Desandré, d'être venue
merci
ce matin
vous,
sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.